Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Delphine Darmon et vous écoutez Demain n'attend pas. Dans ce podcast, nous discuterons à bâton rompu et à cœur ouvert avec des hommes et des femmes qui travaillent à rendre le monde un peu meilleur. Ils sont entrepreneurs engagés, investisseurs à impact, fondateurs d'ONG, artistes activistes. Ils repensent les industries traditionnelles comme la mode ou l'agroalimentaire. Ils agissent dans les domaines de la santé, de l'éducation ou de l'environnement. Ensemble, nous échangerons sur leur parcours, les raisons de leur engagement et sur leurs projets. Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Les catastrophes climatiques se multiplient, les rapports du GIEC s'entassent et les scientifiques s'égosillent, mais rien n'y fait. Chaque année, on utilise plus d'énergie fossile et on émet plus de CO2. Alors visiblement, être informé ne suffit pas. Qu'est-ce qui peut nous interpeller suffisamment pour nous faire changer nos comportements, les modèles économiques de nos entreprises et nos politiques? Est-ce que l'art et la photographie ont un rôle à jouer? Est-ce qu'elles peuvent nous faire ressentir la beauté de la nature, la réalité des menaces qui pèsent sur le vivant? Est-ce qu'ils peuvent nous donner l'envie de nous mobiliser? C'est tout le pari de mon invité de cette semaine. Il s'appelle Nicolas Henry, c'est un photographe engagé et c'est le fondateur de la Biennale Photoclimat. Tous les deux ans, à la rentrée de septembre, la Biennale investit les places et les rues de Paris. Si vous êtes passé par Paris en septembre-octobre dernier, vous avez certainement vu des installations monumentales sur les quais de Seine, sur la place du Palais-Royal, devant l'église Saint-Eustache ou sur la place de la Bastille. Ces installations, c'était Nicolas. Pas moyen d'y couper où qu'on aille, on avait sur notre chemin pendant 4 semaines des photos en format XXL, scénographiées, qui nous parlait du réchauffement climatique et de ses conséquences, des violences faites aux femmes, de la précarité, des migrations et de tant d'autres sujets encore. En passant, la Biennale nous donnait à découvrir des ONG assez extraordinaires et déclenchait peut-être, chez nous tous, l'envie de nous engager à leur côté. Photoclimat, c'est tout ça. Ce sont des œuvres très plasticiennes qui sont là pour nous émouvoir, des photographies documentaires qui nous donnent à comprendre les enjeux et qui nous permettent de découvrir des associations qui agissent sur le terrain. Et ce sont enfin des textes qui nous permettent d'approfondir. Dans cet épisode, Nicolas nous raconte comment il en est arrivé à lancer cette biennale qui s'investit dans tout Paris. Il partage sa compréhension du monde associatif et de ses enjeux, et il nous plonge dans le rôle des récits collectifs qui nous sont portés par le monde artistique et qui permettent de mobiliser le grand public et en particulier les jeunes. Alors, si vous étiez en vacances à l'automne dernier et que vous avez loupé la Biennale, ne loupez pas cet épisode et notez déjà dans votre agenda les dates de la prochaine Biennale. Ce sera pour septembre-octobre 2025. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle écoute et vous laisse avec Nicolas Henry. Salut Nicolas.
Bonjour.
Nicolas, merci de me recevoir chez toi, dans ta maison, dans tes bureaux, qui respirent tes photographies partout. Tes photographies et Photoclimat, qui est la biennale que tu as créée et réalisée pour la deuxième année consécutive cette année, et qui nous amène à nous rencontrer aujourd'hui. Alors, je vais peut-être te laisser te présenter et nous dire quelques mots de cette biennale pour commencer. Parce que y a ceux qui ont eu la chance d'y assister en se promenant dans les rues de Paris récemment, et il y a ceux qui ne te connaissent pas encore, qui m'écoutent de plus loin, qui nous écoutent de plus loin. Donc, tu vois, pour qu'on comprenne tous bien ce que tu as fait avec cette biennale, raconte-nous, et puis après, on va faire un long chemin ensemble pour que tu nous racontes comment t'en es arrivé à créer Photoclimat. Et puis, plus généralement, pourquoi, quelles sont ses missions et en quoi l'art peut être transformatif dans la société d'aujourd'hui?
Photoclimat, donc, c'est la deuxième édition, hein, c'est une biennale tous les 2 ans. Et en fait, on installe des scénographies un peu extraordinaires dans les rues de Paris, donc avec un ami scénographe, toute une équipe. Et on met des artistes et des ONG. Donc on a une trentaine de photographes et d'artistes, et une quarantaine d'ONG, et les ONG vont nous faire leur récit. Et les artistes sont porteurs d'une émotion, en fait, pour donner une lisibilité au récit des associations. Donc c'est un festival qui est très populaire, puisqu'on a à peu près 5 millions de visiteurs. On est à la Bastille, sur les quais, place du Palais-Royal, donc dans le centre de Paris, mais aussi en Ile-de-France, on a un certain nombre de programmes, et après des tournées.
Ce qui m'apparaît très spécifique aussi à ton festival, c'est que toutes tes expositions sont sur rue, donc elles interpellent le passant. On choisit d'y aller où on tombe dessus. Donc ça leur donne une visibilité incroyable et ça leur donne une mise en scène dans la rue qui est très spécifique.
Ben, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à arrêter les passants. Parce que, par exemple, sur les quais au week-end de septembre, puisqu'on est là pendant un mois au retour des grandes vacances, il y a 2 millions de personnes qui passent. Et en fait, la manière dont on met en scène, c'est d'essayer que ça soit suffisamment spectaculaire, un peu fou, avec des identités artistiques fortes, très plasticiennes, pour arrêter les gens. Et puis, au milieu de ce flux de vie, qu'ils puissent rentrer dans une réflexion après autour du travail de l'artiste, donc rapporter une histoire avec eux et puis se pencher, puisqu'il y a des textes qui nous racontent après les récits d'associatifs d'engagement. Donc c'est la biennale sociale et environnementale, c'est-à-dire on parle d'écologie et de climat, mais on parle aussi de la cause des femmes, de la pauvreté, en fait on parle des associations en général en France, qui est une culture immense et extraordinaire.
Et donc quand je me balade, si je suis parisien et je me balade sur la place de la Bastille, sur la place du Palais Royal ou sur les quais, je vais tomber sur tes installations qui sont immenses, tu le disais, et très scénographiées. Est-ce que tu peux, c'est le moment où je suis frustrée avec mon podcast parce qu'on n'a pas de visuel évidemment, même si je mettrai des liens dans les notes de l'épisode, mais est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemble, tu vois, qu'on visualise bien quand je me promène, sur quoi je tombe, et si tu peux nous l'illustrer.
Bah, par exemple... place du Palais Royal devant le Louvre, on avait récupéré un ancien décor de la Comédie Française qui était tout en courbe d'une pièce de théâtre. Et là, on a réadapté, on a fait des vagues de bois pour un artiste merveilleux qui s'appelle Richard Moss, qui travaille sur l'Amazonie. Et donc, on a dans les airs, on a une grande photo aussi. Donc, c'est vraiment comme un grand volume sculptural, une sorte d'architecture un peu abstraite, un peu merveilleuse, quoi. Et autour, on va avoir, par exemple, Human Right Watch, Action contre la faim, CCFD, Terre solidaire, Solidarité internationale, SOSAL, qui vont tous avoir une scénographie triangulaire, où là, on va avoir tout un récit très engagé sur les ONG. Donc, on va avoir un volume, par exemple, un peu abstrait, extraordinaire, rêveur, comme une scénographie de théâtre. On peut faire des volumes jusqu'à les plus grands que j'ai faits. Ils faisaient 8 mètres de haut par 25 mètres de large. Donc, des très grandes, des sortes d'arches ou des sortes de folie comme dans un jardin un peu extraordinaire, et à côté aussi des expositions plus classiques de contenu, et tout ça c'est entièrement fait en bois, c'est des bois qu'on réutilise, il y a beaucoup de bois désencombrant, donc on a une forme d'éco-conception en réutilisant toujours en fait les matériaux et ce qu'on a sourcé.
Alors tu nous parles du récit autour des ONG, ce récit va être à base de mots et à base de photos. Donc tu vas présenter leur activité sur une quarantaine d'ONG, t'en parler, et tu vas l'illustrer au travers du travail artistique d'une sélection de photographes qui vont être mandatés pour travailler autour de la cause de l'ONG. C'est bien ça, Nicolas ?
Alors il y a plein de scénarios différents, c'est-à-dire effectivement on produit des résidences, donc l'année dernière on a fait 12 résidences pour des artistes femmes, puisqu'elles sont très sous-représentées dans le domaine de la photographie. Donc là en fait la résidence s'est faite avec, où l'artiste a passé un temps en immersion dans l'ONG, sur le terrain avec les gens pour fabriquer quelque chose. Ensuite, on a des artistes qui travaillent sur des thématiques, je ne sais pas, par exemple, je parlais de Richard Moss avec l'Amazonie. Donc à ce moment-là, on va avoir une ONG, alors là, spécifiquement, c'était Human Rights Watch, parce qu'il aborde des questions aussi très sociales. Et donc, on va faire une association. Donc il y a un discours de plaidoyer qui va être porté par une association en regard du travail d'un artiste. En fait, il y a plein de manières différentes. Il y a des artistes, par exemple, je pensais à la première année, à Aida Moulouné, qui avait fait un grand travail pour Waterhead, donc il s'est immergé dans cette ONG qui est la plus grosse ONG au monde sur la question de l'eau, et qui était partie dans le Danakil en Éthiopie faire des mises en scène en fait pour créer une exposition spécifiquement pour cette ONG. Donc on a plein de manières différentes. Ce qui est au centre de tout, c'est vraiment l'engagement et la rencontre entre les gens de terrain qui œuvrent avec des récits d'une manière extrêmement concrète d'un côté, et d'autre le côté artistique, c'est-à-dire comment d'abord faire passer le public par une émotion pour qu'il arrive à une écoute sur l'histoire qui est portée et les plaidoyers qui sont portés par l'ONG.
Comment est-ce que cette idée t'est venue ? D'où ça, comment c'est né ?
En fait, c'est à cause d'Emmaüs. C'est-à-dire, moi, je suis photographe et j'ai fait pendant longtemps des livres de photos où j'allais autour du monde et je créais un théâtre d'objets en interviewant les gens. Donc au début, j'ai fait les grands-parents autour du monde pour qu'ils me disent comment ils avaient vu changer le monde et avec les objets qu'ils gardaient à la fin de leur vie. Et donc j'ai fait plusieurs livres, et un jour il y a eu une rencontre avec Emmaüs qui m'a demandé d'organiser leurs 70 ans. Ce qu'ils m'ont dit, bah regarde, avec ton théâtre d'objets et le travail très social que tu fais, parce qu'il y avait des thématiques très engagées dans mes livres, alors moi j'étais dans mes petits souliers, Emmaüs c'était un monument pour moi. Et donc on a préparé une énorme expo place du Palais Royal, j'ai passé un an et demi dans les communautés à travailler sur la grande pauvreté. Et puis on a fait cette expo qui a beaucoup marqué, parce que beaucoup de gens sont venus aider, on a fait un truc pas possible, une énorme scéno éco-conçu, avec des jeux de lumière, tout un tas de trucs. Et de là, il y a Lire et Faire Lire qui m'a demandé, Lire et Faire Lire, c'est les grands-parents lecteurs, ils sont 25 000 en France, et donc ils m'ont demandé de faire leurs 20 ans au Panthéon. Et donc on a organisé devant le Panthéon une sorte d'énorme théâtre avec une agora pour que les grands-parents viennent lire, enfin, pareil, on a fait un truc pas possible, et puis... De là, on m'a demandé encore à nouveau d'organiser une exposition de grand format. C'était pour la Fondation Le Marchand, c'était dans les Halles avec Saint-Eustache aussi qui m'avait demandé une expo. Et du coup, à ce moment-là, j'ai allé voir la mairie, le ministère et différents interlocuteurs et je leur ai dit, je pense que moi j'ai plusieurs demandes pour des fondations, des ONG, et je pense qu'il y avait un besoin en fait de créer des expositions grand public pour les associations, et là tout le monde m'a suivi. Et donc c'était pendant le Covid. On a monté le projet, j'ai fait un vague diaporama avec mon rêve de festival, et finalement tous les gens que je suis allé voir ont commencé à me dire oui, donc je me suis retrouvé dans la panade à devoir organiser un truc énorme, et on a fait un festival très grand la première année, c'était assez impressionnant. Mais je pense que c'est venu parce qu'on est dans une époque qui avait ce besoin, et en fait au début c'est les ONG qui sont venus me voir.
T'as eu deux premières expériences avec Emmaüs et Lire et Faire Lire qui t'ont montré que tu pouvais ouvrir et que tu pouvais avoir ce même principe, mais collectif, si je comprends bien, en regroupant de nombreuses associations, enfin toute une sélection, un panel d'associations qui couvrent plein de causes.
Il y a une autre expérience un peu plus fondatrice, c'est que j'étais réalisateur de 6 milliards d'autres et directeur artistique de l'Expo au Grand Palais pour Yann Arthus-Bertrand. Donc à l'époque, j'étais parti dans le monde faire des interviews, mais tout d'un coup, après, j'ai fait partie de l'équipe et avec un poste très créatif pour monter l'Expo au Grand Palais. Donc ça, j'étais très jeune, c'est une chance incroyable. Donc en fait, l'échelle du projet ne me faisait pas du tout peur, parce que je l'avais vécu grâce à Yann qui nous avait donné tant de confiance. Et puis il y avait aussi le fait de faire effectivement, de fédérer à un moment un certain nombre de récits différents, et en fait de pouvoir faire des récits de l'émotion artistique, mais des récits sur l'engagement et nos questionner. Mais... Moi, dans ma famille, j'ai une culture associative. Mes parents avaient plein d'assos, ils ont fait beaucoup de projets de loi. Donc, c'est plutôt des scientifiques. Hein. Je suis un peu le canard de la famille. Et en fait, eux, c'est très concret. Ils font il y a des juristes, des scientifiques, et ils font changer la loi d'un bout à l'autre. Et ça, je l'avais vu. Et donc, j'avais aussi cette envie de m'engager un peu plus d'une manière plus concrète. Et je trouvais que c'était passionnant, moi, de par mes études, mon amour de la littérature, c'est-à-dire les récits transformateurs d'un point de vue plus philosophique. Ce que je trouvais fort avec la question des associations, c'est qu'on était dans des récits vraiment très concrets et donc très directs. Et puis, ce que je savais aussi, c'est que en voyant le tissu associatif, moi, dans les villages d'où je viens, en fait, c'est que en France, il y a 12 millions de personnes qui sont dans les associations. Et donc, les gens qui se mettent dans les assos, ils changent leur vie. C'est-à-dire, ils vont devenir dans des leaderships, ils vont connaître plein de gens, ils vont changer leur communauté. Et donc ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie d'essayer de mettre en avant. Et comme j'avais une demande de la part des ONG, voilà, c'était important.
C'est super intéressant ce que tu dis, Nicolas, parce que... Comme tu le dis, on a en France un milieu associatif qui est extrêmement fort, et en fait on ne s'en rend pas forcément compte. Quand tu dis 12 millions, c'est une personne sur quatre dans la vie active, donc c'est la plupart des gens qu'on croise à la machine à café, en fait, ont eu une activité bénévole à côté, dont elles parlent ou dont elles ne parlent pas. Rendre visibles ces engagements et aussi les faire perdurer, parce que il y a un aspect éventuellement générationnel, tu vois, s'assurer que les jeunes d'aujourd'hui reprennent le relais et s'engagent à leur tour pour assurer la pérennité des assos. C'est un enjeu auquel tu peux participer aussi en donnant à voir la réalité des associations sur le terrain.
Ça, c'est l'enjeu premier, en fait, pour moi, de la Biennale. Comme on a un très large public et qu'on redéfinit des images très différentes par rapport aux associations, qu'on crée ces récits, en fait, j'essaie de raconter les histoires des associations, donner envie aux gens d'aller dans une asso, ce qui est très transformateur après. Et puis ça fait un travail quotidien et au long cours. De l'autre côté, en fait, on a reçu pas mal d'études, aussi bien de l'ADEME, la de BTC, de la Fondation SNCF, parlant de l'engagement en fait par rapport aux jeunes. Et en fait, les jeunes sont très matures sur les dialogues de plaidoyer, on le voit bien, hein, sur des manifestations. Ils peuvent être bénévoles dans des festivals de manière très forte. Et par contre, sur la culture plus traditionnelle, entre guillemets, des associations, qui se fait à l'année, où on participe à un groupe toutes les semaines, on se mobilise, bah, en fait, on a plutôt des baisses de candidatures. Et puis, il y a une baisse du fundraising très importante, hein, puisque ce qu'il faut imaginer, c'est qu'une association comme Amnesty, c'est 1 million de donateurs, comme CCFD, 250 000. Et en fait, c'était un peu comme Yves Rocher, c'est-à-dire on fait son petit chèque par an et on renouvelle toute sa vie. Et ça, en fait, c'est une culture qui est en train de baisser à ce niveau-là. Et c'est très important parce que la donation individuelle, elle permet des plaidoyers qui soient indépendants, en fait, par rapport aux entreprises, aux politiques. Et donc, cette culture, il faut la dynamiser. Et je pense que moi, j'ai reçu beaucoup de demandes au départ des associations à cause de ça. Et ce que je crois, c'est que aussi, il faut, pour toucher les jeunes ou des populations différentes, avoir des récits, aussi bien au niveau des images que de nos artistes, en fait, qui soient différents, innovants, étonnants, et puis vraiment en essayant d'être dans l'air du temps. Et ça, je crois que les artistes qui sont peut-être les communicants les plus extraordinaires, en fait, peuvent nous donner cette chance-là.
Alors tu lèves un point qui est hyper important, Nicolas. À une époque où on croule sous les informations, sous les données, sous les témoignages, quel est le rôle spécifique que peut jouer l'art pour nous mobiliser en général et en particulier pour mobiliser les jeunes ?
L'art, ça peut complètement nous changer. C'est très transformateur. On le voit par exemple facilement avec la musique. C'est-à-dire que quand on est fan d'un groupe, on va mettre le costume du groupe, on va porter les valeurs du groupe, on va. Donc il y a un ensemble de choses. Et puis la musique, elle nous a sensibilisés à beaucoup de causes. On parlait de Sting, par exemple, avec son engagement pour l'Amazonie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ça fait œuvre d'art, ça nous crée aussi une histoire. Il y a une émotion esthétique, mais il y a aussi un récit. Si on aborde sur la musique, par exemple, le récit de Simira et de Jean-Jacques Goldman, par exemple, cette femme du métro, qui tout d'un coup rencontre une star, ils font un incroyable musique, et puis finalement elle est assassinée dans la violence domestique, ça devient une histoire collective, ça devient une de nos mythologies contemporaines. Il y en a un certain nombre, la capote sur l'obélisque d'Act Up, ça a marqué complètement notre enfance, et ça c'était des artistes qui l'avaient mis en œuvre, toutes les campagnes de Toscanini à l'époque, qui serait regardable quasiment aujourd'hui, mais qui avait un engagement extrêmement fort sur les années SIDA, touche pas à mon pote. C'est-à-dire, en fait, il y a toujours une collusion entre les artistes, on le voit avec le hip-hop, par exemple, d'une manière dénonciatrice, et un peu à l'avant-garde des transformations sociétales. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit d'une manière différente. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut répéter, que ça soit plastique ou littéraire, c'est-à-dire on va pouvoir raconter cette histoire et elle devient une histoire collective et très forte.
Tu nous rappelles, Nicolas, le rôle que joue l'art pour créer des liens entre les gens dans une même société en nous offrant un imaginaire commun, un imaginaire collectif. Nicolas, j'aimerais revenir un instant sur les choix éditoriaux que tu fais pour ta biennale. J'aimerais comprendre comment est-ce que tu construis ton éditorial pour attraper le passant dans la rue qui va traverser tes installations. Comment tu fais pour l'attraper, pour l'arrêter, pour lui donner envie de s'arrêter sur son chemin et d'aller vers des photographies qui peut-être vont lui apporter aussi une meilleure compréhension d'enjeux environnementaux et sociaux, avec parfois du contenu assez dense, voire même ardu.
En fait, ce qui est important, c'est que pour arrêter les gens et attirer le public, c'est plutôt des écritures très plasticiennes, un peu extraordinaires. Par exemple, la première année, place de l'Hôtel de Ville, on avait une artiste qui s'appelle Aïda Moulounet, voilà, qui avait fait un projet de mise en scène très extravagant, très beau, très théâtral, une artiste éthiopienne. On avait fait une grande installation au centre, donc les gens de loin venaient voir les maquillages, l'univers un peu surréel de Haïta. Et autour, on avait qu'Action contre la faim, on avait envoyé 4 reporters de l'agence Vue faire des récits sur la question des réfugiés climatiques. Et donc on avait là des images de reportage absolument magnifiques de cette équipe. Mais ce qui était important, c'est qu'au début, les gens étaient attirés par l'installation un peu spectaculaire de l'artiste. Ensuite, ils commençaient à rentrer dans les récits en fait, des reportages et après dans les récits de textes. Et en fait, une fois qu'on a capturé le public une première fois par des émotions, en fait, il va commencer à rentrer dans les couches de contenu. Et c'est ça, mais il faut chapitrer un peu comme dans un magazine d'une certaine manière. Et on va jusqu'à des parcours pédagogiques aussi parce que on fait des donc les parcours pédagogiques là c'est fait pour les enfants et les familles, mais finalement un peu pour tout le monde. Où là vraiment par exemple d'une manière complémentaire à l'exposition que j'ai décrit avec Action contre la faim, on avait fait Tomate Impact. C'était un parcours pédagogique qui racontait pourquoi quand on mange une tomate hors saison, en fait ça crée des réfugiés climatiques. Et donc à l'autre bout du monde. Et ça, on l'expliquait avec un récit qui était sur bois, qui était à l'Académie du Climat pour les enfants. Et de l'autre côté, on avait mis encore un quatrième projet dans ce chapitre, c'était Cyril Jasbeck, c'était les stupas de glace. Alors ça, c'est un mec au Ladakh, en Himalaya, qui met des tuyaux en fait, dans les rivières, et en fait, il vaporise l'eau pendant tout l'hiver. Ça crée en fait un glacier artificiel, donc une montagne de glace au milieu d'un champ. Et ensuite, pendant tout l'été, en fait, il va fondre. Et en fait, ça a arrêté l'exode rural d'un immense nombre de villages parce que tout d'un coup, on avait de l'eau. Mmh. Comme quoi, le génie humain, il peut être aussi transformateur face au drame. Et donc ça, c'était un récit complet. C'est-à-dire qu'il va d'une émotion artistique sur une thématique autour de l'eau et de la désertification à du reportage, en fait, avec vraiment concrètement les réfugiés, l'Action contre la faim qui fait des camps de réfugiés, bon, voilà l'aspect dramatique, mais l'aspect concret de la problématique. Ensuite, une solution résiliente avec les stupas de glace, et puis une responsabilité individuelle avec un parcours pédagogique. Donc ça, c'est une articulation qui est intéressante, mais ça crée des points de vue indissociables, mais qui nous permettent de trouver voilà, des solutions, mais aussi d'avoir une écologie positive avec de l'espoir.
Alors, tu dis que sur chacune de tes causes, il y a les gens qui vont être exposés, les passants, qui vont venir volontairement attirés par ta biennale ou qui vont simplement passer place de la Bastille ou sur les quais ou dans les différents endroits où tu exposes. Et puis, tu as tout ton écosystème qui, de fait, va être sollicité. Comment est-ce que tu dépasses cette population-là tu vois, quand on voit le travail qui a été fait sur le contenu, et le travail éditorial par toi et tes équipes, et le travail photographique, et le travail au sein de l'association de génération de plaidoyer. Quand tu vois cette richesse que vous avez là, comment la faire vivre dans le temps derrière, et comment l'amener à d'autres publics au-delà des passants parisiens?
En fait, la Biennale à Paris, c'est le moment fort, parce qu'évidemment, on a un grand nombre de visiteurs et c'est ce qui permet pour nous, en fait, de créer les financements principaux pour construire les expositions. Et après, ensuite, il y a beaucoup de tournées. Alors déjà, parallèlement au Festival à Paris, on avait 30 expos à Paris et 20 expositions en Île-de-France. Et en fait, par exemple, en ce moment, on a monté des expositions, on a des oiseaux géants sur des tours qui sont en démolition à Épinay sous Sénart, on a fait la gare de Grigny avec toutes les mamas de Camille Garbi, on monte un projet à la basilique de Saint-Denis à Saint-Denis avec Icam Béré, Sandra Reinflett. Donc en fait, les expositions après elles partent en tournée dans différents endroits en France. Par exemple, là on projette des projets avec Darwin à Bordeaux, on avait fait le pôle océan à Ajaccio, à la Seine-sur-Mer, on était au congrès mondial de la biodiversité à l'UCN, mais on amène aussi les expositions en fait dans des quartiers complexes. Là, j'ai cité en fait un certain nombre. Grigny, c'est la commune la plus pauvre de France, hein. Et donc on amène des expositions pour toujours en fait. On a une cause importante, c'est d'amener la culture et les engagements à des publics qui n'ont pas forcément un accès aussi facile que ceux qui vont dans les univers culturels. Donc c'est pour ça que la Biennale elle est gratuite pour tous et qu'ensuite les expositions elles vont partir un petit peu partout. Par exemple, les parcours pédagogiques qu'on fait avec des ONG, il y en a ont fait une quinzaine de sites dans l'année. Et donc, nous, le rôle de Photoclimat, et c'est un rôle qui est, le festival est construit un peu comme un spectacle, c'est-à-dire que la tournée, elle va permettre en fait de dynamiser, d'avoir des nouveaux publics et de créer une part de financement pour la mise en place du festival à Paris.
Tu nous as fait découvrir de nombreux photographes au fil de notre discussion. Et j'essaierai de mettre les liens pour que toute personne intéressée puisse directement aller retrouver leur site ou leur Insta, comme Laetitia Key, par exemple, et d'autres. Tu nous amènes à voir ou à revoir aussi des photographes éminemment célébrés. Est-ce que tu veux nous en parler quelques minutes, ces photographes-là qui, historiquement, ont toujours eu un engagement autour des sujets sociaux, environnementaux très forts et ont utilisé leur notoriété justement pour sensibiliser le grand public?
Ben, ça, évidemment, on en met dans la Biennale. Cette année, on avait un incroyable photographe allemand historique qui est Nils Sudo, qui est le grand photographe du Land Art. Donc, il fait des installations dans la nature depuis les années 70. C'était notre papy. La première année, on avait aussi Sébastien Salgado, dont on connaît l'engagement incroyable au départ social sur les questions humanistes, mais aussi écologiques. On avait cette année Yann Arthus Bertrand, dont on connaît la cause et l'engagement depuis tellement d'années. Par exemple, Richard Moss, que j'ai cité, Nick Brandt, incroyable, un photographe qui faisait des photos absolument magnifiques de la grande faune africaine et qui tout d'un coup commence à mettre des bâches avec ses photos dans les décharges, qui commence à amener des animaux empaillés dans des déserts, et qui va là nous faire des photos de réfugiés climatiques avec des animaux en fait qui sont aussi dans des centres de refuge. On a l'incroyable artiste, par exemple Vic Muniz, l'artiste brésilien qui a fait un travail énorme dans les décharges au Brésil, qui a un travail qui s'appelle Westland. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est en gros, sur une trentaine d'artistes par biennale, on va avoir une dizaine d'artistes avec des travaux très reconnus, qui sont des gens très engagés et dont le travail va marcher avec le public parce que ils ont déjà une célébrité et ils ont une force qui est extraordinaire. Ensuite, on va faire une dizaine de projets qui sont très liés aux associations, plus avec un certain nombre d'écritures de type reportage comme ça pour être vraiment dans le sujet. Et ensuite, on va produire une dizaine de résidences où là, on va commander à des artistes pour s'approcher au plus près de thématiques et aussi... En fait, pour s'adresser au nouveau public, ce qu'on a remarqué, c'est que quand on met des artistes jeunes, et ben en fait, les jeunes, ils s'attachent beaucoup à ces artistes parce qu'ils ont une écriture qui est de leur génération. Et donc ça, par exemple, à la Bastille, je pense que la moyenne d'âge, elle devait être autour de, je sais pas, 35 ans, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était très important pour nous d'être en cohésion avec une génération. Et puis, pour être sur les dernières thématiques, amener des gens sur les ONG aujourd'hui, ça veut dire qu'on fait un point aujourd'hui sur ce qui se passe. Parce que, en fait, les impacts du changement climatique, la transformation du monde avec les conflits, elle est tellement énorme qu'en fait, ça change de mois en mois, en fait.
Nicolas, est-ce que tu peux nous raconter comment certains des projets photographiques de ta biennale nous montrent les activités des ONG, leur quotidien, leur diversité et aussi la vie des personnes qui s'engagent dans les associations?
Par exemple, on va continuer le tour de France des ONG. Donc là, évidemment, je vais voir plein de communautés avec des modes de vie qui sont assez incroyables, mais qui se questionnent sur la transformation, mais qui sont aussi des modes de vie. Hein. Donc ça, depuis maintenant 6 ans, en fait, je visite beaucoup de projets d'associations. Donc là, on aura, entre guillemets, ces formes utopiques un peu différentes. Mais c'est en fait, on fait une thématique, par exemple, avec l'association Entourage, qu'on est en train de monter, en fait, sur la question de l'aidant et de l'aider. Et en fait, on peut être plus heureux en aidant. C'est la métaphore, c'est-à-dire, est-ce que c'est la vache qui allaite son veau, est-ce qu'elle est plus heureuse de donner son lait ou c'est le veau de le recevoir, en fait? Et donc, du coup, sur cette question-là, c'est-à-dire, on peut vivre mieux en aidant. C'est-à-dire qu'en fait, la générosité, c'est un facteur de bonheur pour l'autre. En fait, dans le fait d'être ensemble et transformateur. Donc ça, on essaie de réfléchir là à déjà remettre au centre l'individu dans son investissement au monde, envers l'autre, et que ça soit une source de bonheur. Donc ça peut être peut-être une solution. Après, on prépare un projet sur l'agriculture. Donc dans ce projet pour l'agriculture, on va aller voir des endroits utopiques, mais on va aussi, par exemple, expliquer que il y a 40% en moins de la population agricole qui va disparaître dans quelques années. Donc ça, c'est une autre problématique. Par contre, il y a aussi des nouveaux modèles pour arriver, en fait, à il y a des agriculteurs, par exemple, qui font rentrer des familles de jeunes agriculteurs, même dans l'agriculture plus intensive, pour changer le modèle. Donc on va essayer, en fait, de donner des manières de solutions transformatrices et d'en donner des exemples pour donner envie.
Avant de terminer, Nicolas, j'aimerais que tu nous parles de tes projets. Je comprends que tu es bientôt sur la route, que tu vas partir pour un voyage merveilleux autour du monde, si tu peux nous en parler un peu, et également de la façon, si tu le sais déjà, de la façon dont tu envisages la prochaine biennale en 2025.
Alors, là justement, on aborde, comme c'est tous les deux ans, pendant un an, je pars avec ma compagne Floriane Delassé, et on va... Il y avait des fondations, dont la fondation Raja, et puis un autre projet sur les arbres de vie qu'on a fait avec Nexira SOS Sahel, en fait, qui voulaient qu'on aille dans certains pays pour documenter des projets, notamment autour des femmes et de l'environnement et de l'agroforesterie et des arbres sauvages. Donc, qui sont des thématiques très transformatrices, avec des impacts forts. Et donc, du coup, on a regroupé ce voyage en famille pour partir autour du monde, visiter des associations. Et puis, c'est aussi une manière de réfléchir, en fait, à des contenus, à des solutions pour la biennale. Dans la biennale elle-même, pour l'instant, donc, j'ai évoqué un projet sur l'agriculture, puisque pour moi, il y a un enjeu sur la vocation dont on a parlé précédemment, qui est très important. Et puis, il y aura un projet sur la grande pauvreté. Il y aura une partie sur les grosses ONG humanitaires, hein, comme on fait chaque année. Et voilà, donc ça, c'est pour l'instant, et puis ça va évoluer, hein, il y aura certainement des nouvelles thématiques et expositions. Ce qui va se passer aussi, c'est que du coup, on a décidé de continuer le Tour de France des ONG. Donc à nouveau, voir beaucoup de projets un peu d'avant-garde aujourd'hui. Donc ça, c'est la Fondation Le Marchand qui nous fait l'editing. Donc on voudrait éventuellement aller vers un livre. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que si je reste à Paris et que je lis que des bouquins ou que je rencontre que des rendez-vous avec des ONG, j'apprends beaucoup de choses. Mais en fait, en voyant les projets concrètement sur le terrain, je trouve que ça me donne beaucoup de réflexion sur les thématiques et puis d'aller voir des gens qui vont me parler pendant des journées entières de leur mode de vie, leurs envies et tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on va faire là pendant un an. Et après, on va se remettre dans toute la production et la préparation concrète du festival.
Nicolas, je t'amène vers mes dernières questions. J'aime poser à mes invités la question d'un livre ou de plusieurs livres qui auraient été importants sur leur chemin, tu vois, qui t'a fait évoluer et que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui.
En fait, plus jeune, il y avait la petite fable de L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. Ce qui était incroyable, c'est que c'est l'histoire d'un gars qui revient de la guerre et en fait il va visiter un vieil homme et en fait il se rend compte que ce vieil homme tous les jours il plante des graines en fait avec un bâton en gros. Et en fait, sauf que cet homme-là tout seul il l'a fait pendant 30 ans, 40 ans et qu'en fait finalement les arbres sont revenus dans des régions entières et la vie est revenue et il a reconstruit les villages. Et ça je trouve que cette fable elle est splendide parce que elle dit que notre action individuelle, elle peut être complètement transformatrice pour énormément d'autres êtres humains.
Très beau livre. Merci. Merci Nicolas. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une personne inspirante et engagée à qui tu aimerais passer ce micro ?
Bon, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Claire Nouvian, de l'association Bloom, qui est... Alors, quand je la rencontre, elle est toujours en colère incroyablement parce qu'elle est très très précise et qu'elle se rencontre. Donc, elle travaille sur l'océan elle a vraiment elle est très pointue là-dessus. On est en train de préparer un projet avec elle sur la biennale, avec des scientifiques et tout ça. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est à la fois très sensible à l'image, hein, puisqu'elle avait commencé son engagement avec le livre Abyss, qui était absolument merveilleux. Avec des formes de vie au fond de la mer. C'était hyper étonnant de voir ce livre arriver tout d'un coup. Et puis de là, elle est passée à l'engagement, et dans un engagement de plus en plus avec des plaidoyers, et puis très efficient, hein, puisque Bloom, ils ont réussi à faire interdire les filets électriques dans le monde entier, les filets en eau profonde en Europe. Donc c'est des gens qui arrivent à faire bouger les lignes. Et ça rejoint ce que je disais sur Giono, c'est-à-dire, en fait, quand on veut, comme ça, moi j'ai vu dans ma famille, par exemple, ma mère sur des lois sur le bizutage, sur des choses comme ça, en fait, partir de la thématique, et en fait, en montant une association, ensuite en montant une hotline, en faisant les jugements référents, faire passer une loi à l'Assemblée, et finalement inclure dans la société un changement juridique, et où là on peut vraiment arriver à changer les choses. Et donc l'action individuelle, elle est transformatrice, et c'est vrai que Claire, elle est admirable pour ça.
Oui, elle a un rôle très très important au Parlement européen où elle va beaucoup pour monter ses plaidoyers et faire changer les lois. C'est vraiment très remarquable. J'aime bien qu'on termine en fait par ces deux exemples, tu sais, le livre de Giono et Claire Nouvian, parce que la boucle est bouclée avec ta programmation, symboliquement. Ça nous renvoie aux besoins qu'on a de symboles et de rêves d'un côté et d'actions concrètes de l'autre. C'est un peu à l'image de ta programmation où tu mets en avant des ONG qui sont d'une grande efficacité et tu nous amènes par l'émotion à ressentir à la fois notre capacité transformatrice et la réalité du monde d'aujourd'hui. Donc, j'allais dire cerveau droit et cerveau gauche, rêve et efficacité. Ces mots de la fin sont à l'image de ce que tu fais dans Photoclimat. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci.
Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcasts. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.